Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor.
Non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
C'est une extraordinaire coïncidence.
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission Ciné Primitif, la cinquième il me semble, si on ne compte pas celle de Noël.
Pourquoi on compte pas Noël?
On compte pas Noël, c'est une spéciale.
C'était la bonus.
Oh, ok, la bonus. Okay. Là c'est spécial Nouvel An du coup.
Ouais, c'est ça exactement. D'ailleurs, vous avez passé des bonnes fêtes ou pas?
Très bien, merci toi.
Ouais, très bonne.
Une bonne grippe. Et aujourd'hui on se retrouve, donc je vous fais un petit rappel de l'émission quand même, on va présenter 6 films par rapport à un thème, passer leur bande son. Et aujourd'hui le thème imposé qui a été choisi par la roulette, et un thème que j'ai choisi, c'est le thème biopic.
Prison, tout à fait.
Non, biopic, ah, mais effectivement, ouais. Petit spoiler, il y aura beaucoup de prison dans ce thème. Ouais, on a choisi, t'aurais pu choisir autre chose que la prison. Hein, tu as fait ton choix. Non, en tout cas, c'est un thème, à la base, t'étais pas trop chaud toi, d'ailleurs, Bobo, pour ce thème, et finalement, on a des très bons films à vous proposer.
C'est vrai, je l'admets, j'étais pas...
Si, il y a bien sûr...
Pas emballé au départ, films, mais au final, ouais.
Il y a une bonne sélection.
Je trouve aussi. Et d'ailleurs, je te propose de commencer tout de suite par le premier film.
Bon, on va commencer par un grand classique, hein, Midnight Express,
yes.
Réalisé par Alan Parker en 1978. Donc, le scénariste, bah, Oliver Stone, hein, de toute façon...
je croyais que c'était lui qui avait réalisé, d'ailleurs.
Mais... Non, c'est Alan Parker qui a pas réalisé grand-chose. Mais bon, Oliver Stone, après, bon, il a adapté le livre, hein, c'est une autobiographie de l'évadé qu'il a fait avec un autre auteur. Le film dure 2 heures et a été assez bien accueilli. Bah, je vais commencer par le synopsis. Hein. En 1970, Billy Ice, un jeune Américain, est arrêté à l'aéroport d'Istanbul en possession de drogue. Condamné à une peine de prison démesurée, il découvre un univers carcéral brutal et inhumain. Tentant de survivre dans un environnement oppressant, il planifie une évasion désespérée connue sous le nom de Midnight Express. Donc là, on est sur, grosso modo, le pitch de base. Hein. Midnight Express, c'est une expression pour dire se faire la belle. Hein.
C'est ça.
Tout à fait.
Il rappelle.
Donc, dans ce film, on va suivre Billy Ice, un Américain. Je parle vraiment du film, hein, pas du bouquin ou quoi.
Ouais, merci.
Un Américain qui se fait contrôler avec de la drogue à l'aéroport alors qu'il est embarqué pour les États-Unis avec sa femme.
Du cannabis.
Et du coup, bah, sa femme embarque sans lui et là commence la. La montagne russe, la descente aux enfers de Billy Ice. Qui, je pense, ne s'imaginait pas arriver là.
Ouais, il s'en est pas rendu compte.
Non,
sur les photos, au départ, il sourit, il fait un peu le malin.
Ouais, il fait un peu le malin parce qu'il comprend rien, en fait, de la barrière de la langue, il n'y avait pas de traducteur, il dit oui, il comprend rien.
Ouais, et puis son statut d'Américain,
lui
dit, c'est bon, moi je suis un Américain, je vais vite sortir de là, on va me sortir, etc.
Alors, ça a été tourné à Malte, hein, bien fait. La Turquie a refusé le
tournage. Les Turcs, après ça, ils ont des...
Ah, il y a eu un incident diplomatique.
Ah, bah, clairement, mais en même temps, ils ont perdu des milliers, des millions de dollars à cause du manque de touristes qui voulaient plus venir là-haut.
Oui, j'imagine.
Parce que les Turcs, ils sont quand même dépeints dans le film comme des...
C'est la grosse différence avec le... Avec le livre, en fait, apparemment.
J'ai pas lu le livre. Après, sur les Turcs en général, la question se pose pas, mais c'est sur, les prisons. C'est
l'univers carcéral.
Elles ont été reconnues comme étant les pires prisons du monde.
Ça a fait évoluer les choses aussi. Le film a fait évoluer un peu les choses. Mais l'acteur s'est excusé en 2008, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a Oliver Stone qui s'est pas excusé.
Non,
complètement. Après, il assume. Il a eu Oscar quand même pour son scénario. Donc, voilà.
C'est un film.
Ça reste un film, hein, c'est inspiré. Bon, c'est sûr que ça faisait pas la pub de la Turquie.
Non,
parce qu'il y a que 2-3 plans qui sont tournés à Istanbul vraiment au début, avant qu'ils aient les autorisations, et après tout le reste est filmé à Malte. Bon, après, bon, au niveau des acteurs, on a Brad Davis qui a pas fait grand chose d'autre à part ce film.
Donc c'est l'acteur principal,
ouais,
c'est ça.
C'est ça, celui qui fait Billy Ice. Irene Miracle, sa femme, elle joue un peu Pet Master, un chef-d'œuvre que je vous présente à la tête, avec des marionnettes qui tuent des gens. On a Andy Quaid qui joue dans le film, c'est un de ses collègues de prison. Lui, il joue dans une dépendance, c'est le père alcoolique qui fait de l'avion, là, qui se suicide et fait la voix dans Toy Story 2 du cochon. Qui d'autre? John Hurt qui joue dans Alien, Harry Potter et Frontman. Et après, Paul Smith, lui qui fait Amidou, gardien de prison, il joue dans des faux
Terence Hill et Bud Spencer.
Oui, voilà, merci.
De rien.
Il a fait des parodies du bois, des trucs comme ça qu'on a vraiment nul. Hein.
D'accord, ok, ça marche. Okay, ouais. Par contre, dans ce film, il joue super bien.
Ah ouais, il joue super bien.
Il joue super chef, bien en fait.
Ouais, mais le chef gardien.
Même l'acteur principal, il fait...
Ouais, la performance d'acteur, elle est assez impressionnante.
Oui, oui,
je pense que ça lui a collé à la
bande. Son pote, Max, celui qui est interprété par John Hurt, le hippie avec ses lunettes, toi aussi, pareil, une grosse performance d'acteur en prison.
Mais après, le gardien, il te... il te fait peur, le gardien.
Le gardien te fait peur, et surtout la super musique de Giorgio Moroder qui correspond parfaitement au team qui fait monter en pression.
Merci.
À l'époque, c'était quand même assez osé de mettre une musique dans ce style.
Ouais, au début, il pensait pas à Giorgio Moroder, et je sais plus par qui se l'est fait conseiller, et ça a matché direct.
Parce que c'est quand même disco.
C'est pas disco, c'est début de l'électro. Donc après, ouais, tu peux le relier à la disco, mais c'est début vraiment du pur électro. C'est un des pionniers de l'électro.
Le mixage son est bien parce que le beat de la musique correspond au battement du cœur aussi. Donc t'as une passion continue avec le battement du cœur. Au début, à l'interpellation, tu la sens, tu la vis.
Ouais, Giorgio Moroder, c'est un pionnier dans l'électro.
Ah, puis dans ce film-là, c'est vraiment.
Ça aurait pu être foireux, en fait. C'était osé, quoi.
Après, il avait déjà d'autres films à son actif.
Maintenant, c'est mythique.
Ouais. Voilà, donc on va s'écouter un petit Giorgio Moroder.
Et bah allez,
The Chase.
Et bah c'est parti, et on se retrouve après. Et donc, c'était Dahu.
Giorgio Moroder, The Chase.
La musique de Midnight Express.
Exactement.
Un film, faut avoir le cœur accroché quand même pour le voir.
Un film à voir.
À voir, en
au
tout
moins,
cas.
Au moins, une fois dans sa vie, hein, ça vieillit pas.
Avec une bande-son fantastique, Giorgio Moroder.
Directeur, bon, il n'y a pas grand-chose à acheter.
Non.
Ouais, voilà. Et je te propose, Bobo, qu'on passe au film suivant.
Oui, Papillon, sorti en 74, réalisé par Franklin G. Schaffner, qui a réalisé 12 hommes en colère, La planète des singes de 68.
En colère, génial ce film.
Ouais. Avec une belle distribution, vraiment, hein, Steve McQueen, 7 mercenaires, La fureur de vivre, Bullet, La tour infernale, et Dustin Hoffman, le lauréat. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là, mais il est exceptionnel comme film. Little Big Man, Kramer contre Kramer, dont je suis vraiment fan. Jeanne d'Arc.
Il joue dans Jeanne d'Arc.
Bien sûr, il fait le prêtre. La vision qu'a Jeanne d'Arc. Ouais.
Ne m'oblige pas à revoir ce film.
Mais si, j'ai bien. Et je sais que mon petit Dahu à côté est fan de Luc Besson. Donc le petit clin d'œil.
J'ai un autre à mater dans mes chiottes.
arrête. On reparle. Je prendrai du Besson. On en reparlera. Mon beau-père, mes parents et moi. Il a fait dernièrement.
Pas la liste.
Non, Dustin Hoffman. Je vous conseille le lauréat si vous l'avez jamais vu. Vraiment magnifique. Très bien. C'est un de ses premiers films quand il est tout jeune. Le synopsis donc de Papillon. On en revient à notre Papillon. Henri Papillon Charrière, un malfrat de petite envergure, est jugé à tort pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Celui-ci est condamné à vie dans une prison d'une colonie française, le bagne de Cayenne. Mais Papillon n'a qu'une seule idée en tête, s'évader. Sur le navire qui m'emmène à Cayenne, je rappelle quand même que Cayenne, c'est en Guyane française.
On peut pas y aller en voiture.
Française et mondiale, hein, petit rappel. Il se lie d'amitié avec le faussaire Louis Delga, que tout le monde connaît sur le bateau. L'un possède la force physique, l'autre le pouvoir de l'argent. Après plusieurs tentatives d'évasion avortées et des conditions de détention infernales, il fera preuve d'un tel acharnement que les dirigeants l'envoient sur Devil's Island, l'île du diable, une prison dans la prison dont jamais personne n'a réussi à s'échapper. C'est un film que j'ai vu dans mon enfance, qui m'a marqué, que j'ai trouvé formidable avec un jeu d'acteur.
Je ne l'avais pas vu, j'ai regardé sans souci, ça passe bien.
Ouais. Ça, passe,
ça reste dans, bien, vraiment bien, dans bien, les films américains de cette époque-là. C'est Steve McQueen, vraiment bon, Dustin Hoffman, bon aussi.
Tu t'attaches au personnage en plus, je trouve, ils ont tous un côté attachant. Ouais,
c'est pas... Par contre, il se passe tellement de trucs.
Ouais.
Que la différence avec la réalité, il y en a pas énormément, mais
alors en fait si, sur le
la chronologie peut-être, mais
non mais si tu veux le récit donc de Henri Charrière sur son bouquin, parce qu'il a fait une biographie après cette évadé.
Une autobiographie, c'est lui qui l'a créé.
Tout à fait. Ce n'est pas que son expérience. Donc il relate un peu toutes les expériences des autres prisonniers, etc., qui s'est plus ou moins approprié. Donc il y a eu énormément de gens qui ont écrit ouais. Donc effectivement, il a enjolivé, mais c'est des choses que les prisonniers ont véritablement vécu.
Mais c'est pas le film qu'enjolivait, c'est lui qu'enjolivait le livre.
Voilà, il s'est un peu tout approprié, mais ça n'en reste que le gars... Il a fait je ne sais plus combien d'années à Cayenne et a vécu des choses dingues dans ce bagne. J'avais, je crois, j'ai 2-3 répliques assez sympas. Résister à la tentation, là est la véritable mesure du caractère, par Louis Delga. Il n'y a aucun moyen de s'évader. Et Papillon répond, il y a toujours moyen de s'évader. Après, nous sommes les seuls animaux qui se bousculent pour survivre. Encore une phrase de Papillon. En 73, c'est une année paradoxale pour Papillon. C'est l'année où Steve McQueen glorifiait le mythe du célèbre prisonnier Papillon. Henri Charrière décède le 29 juillet. Donc c'est un récit avec un assemblage divers d'anecdotes de sa vie carcérale.
Mais c'est bien, ça présente bien le bagne, je pense, hein, bagne contemporain.
Mais tout à fait,
ça donne pas envie d'y aller.
Mais moi j'aime bien au final le petit speech au début du film qui dit la France ne veut plus de vous. Voilà, vous êtes arrivé à Cayenne, la France ne veut plus de vous et vous resterez après votre détention en Guyane française. Donc voilà,
mais contrairement à Midnight Express, lui, il se fait enfler. Et c'est à chaque fois que ça devient plus dur pour lui, c'est parce que c'est fait enfler par quelqu'un d'autre. Ouais.
À la fin, Delga, il a plus d'argent, voilà, il a plus aucune solution pour lui de s'échapper.
Que Midnight Express subit, lui, il s'est arnaqué.
Moi, j'aime bien ça parce qu'au final, Henri Charrière, ça reste un chien fou que tu peux pas emprisonner.
Il fera tout pour s'échapper.
Ouais, c'est ça. Tu peux pas. En fait, il y a des gens un peu comme Mérine aussi. Mérine que tu ne peux pas emprisonner. Les mecs, quoi qu'il arrive, ils s'échapperont. Enfin, voilà, c'est. Voilà, j'ai bien aimé.
Il n'y a pas grand monde qui a pas essayé d'être emprisonné dans
ce. Et en plus, là, j'aime bien ça parce qu'au final, il a été emprisonné pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Et ça, c'est.
Une délation par rapport à son nom Papillon, je crois. C'est un autre Papillon qui avait fait le meurtre.
Exactement, voilà. Bah après, il était pas tout blanc à l'époque.
Non, je crois que c'était quand même un mec de la rue.
J'aime beaucoup ce film.
Franchement, les 2h30, elle passe vite. La dernière demi-heure, je l'ai trouvé un peu longue, personnellement.
C'est la dernière demi-heure dans la version qu'il nous a proposée, en fait, c'est une version longue. Et du coup, c'est pour ça qu'il parle en anglais à des moments.
Ouais, aussi, ouais.
Après, c'est un peu plus méta psychologique, quoi. Ils sont tous dans son collègue de Dustin Hoffman, lui ça fait déjà un moment qu'il est là, il a sa matrice pour lui, il a pas envie de partir.
J'adore Dustin Hoffman. J'aime beaucoup cet acteur Dustin Hoffman.
Il y a des bons films.
Je vous conseille encore une fois le lauréat et Kramer contre Kramer avec Dustin Hoffman si vous ne les avez jamais vus.
Et Bobo, la musique que tu as choisie, c'est
BO de Jerry Goldsmith.
Jerry Goldsmith qu'on...
Les Gremlins, ça.
Voilà, oui, il y en a pas eu beaucoup.
Les Gremlins, sa malédiction.
C'est au moins la troisième fois qu'il passe.
C'est ça. Enfin, je veux dire, si vous écoutez
Rambo aussi.
Oui, si vous écoutez, Radio Primitive et le podcast Ciné Primitif, vous connaissez Jerry Goldsmith.
Ouais.
Mais Jerry Goldsmith, voilà excellent compositeur.
À fond. Et donc, la musique, c'est le thème principal.
Papillon.
Ok, c'est parti. Et donc, on vient de s'écouter Bobo.
Jerry Goldsmith.
Et la musique, c'était tirée du film
Papillon.
Papillon. Voilà. Moi, je vous propose, parce que là, au fait, je vous avais proposé un thème biopic. Vous avez parlé que de prison. Du coup, moi, je vais respecter le thème biopic.
Ah, mais moi, j'avais pas compris qu'on était sur le biopic. Moi, j'ai compris qu'on était sur le thème prison.
Non, mais du coup, je vais rester sur un truc qui... Enfin, ça va changer complètement, puisque je vous propose le film Bronson. C'est un mec qui passe sa vie en prison.
Il n'y a pas beaucoup de scènes extérieures à la prison. C'est peut-être des premières minutes du film.
La différence avec vos films, c'est que...
Il fait plusieurs prisons.
Mais c'est surtout que lui, il aime être en prison, en fait. Bronson, son truc... c'est d'être en prison. Donc c'est un biopic, c'est vraiment un personnage qui existe. Donc ce film est sorti en 2008. Le réalisateur c'est Nicolas Winding Refn, désolé si je prononce mal, qui a fait la trilogie des Pusher.
Chef d'œuvre.
Ouais, et Drive, un peu moins chef d'œuvre, mais
moins
ça
fun.
Va. Voilà, on est d'accord. Et en distribution on a le Tom Hardy quoi. Tom Hardy, le
chef d'œuvre.
Chez Dove, on est d'accord.
Ok. Ouais, excellente performance.
Ça, c'est après Matt King et James Lance, mais Tom Hardy, quoi.
Mmh. Ouais.
Pour résumer, qui est Bronson? Charles Bronson. Il est né dans une famille de classe moyenne respectable. À la base, il s'appelle Michael Gordon Peterson. Il est connu pour avoir passé la majeure partie de sa vie dans des lieux de privation de liberté, donc dans des prisons. Et aussi en asile psychiatrique. Il a fait un petit passage, on y reviendra tout à l'heure. Au moment du film, il a déjà passé 34 ans en prison et 30 à l'isolement quand même. Il est considéré comme le détenu le plus dangereux d'Angleterre. Son truc à lui, en fait, c'est de frapper.
Castagner du gardien.
Ah, il frappe tout. Il frappe du gardien, il frappe des patients, il frappe tout le monde.
Ah, mais il a une petite affection pour les gardiens quand même.
Alors, c'est ça.
Belle affection même.
Hein. Ah, oui.
Et ce film, j'adore. J'avais hésité avec Into the Wild. Je préfère Bronson quand même. Avant Tom Hardy, c'était Jason Statham et Guy Pearce qui avaient été pressentis pour le rôle titre. Moi, à la limite, on s'en fout un peu.
Guy Pearce, peut-être. Guy Pearce.
Ouais, moi, je dis Guy Pearce. Ouais. Guy Pearce parce qu'on est en France, monsieur.
Guy Pearce.
Et d'ailleurs, la performance de Tom Hardy est quand même assez impressionnante parce qu'il y a un côté burlesque en fait. Parce que Bronson, faut le savoir, le prisonnier, donc le vrai, se prend un peu pour un artiste. Pour lui, faire la bagarre, c'est de l'art en fait.
J'ai envie de te dire, il a élevé. Son artisanat au rang d'art.
Ouais.
C'était un artisan de la bagarre et qui est devenu artiste.
Oui, il est devenu artiste aussi, il a fait de la peinture et tout. Bah, tu vois dans le film d'ailleurs comment il évolue par rapport à ça. Et ouais, non, franchement,
c'est un film. Après, c'est peut-être pas important parce que c'est filmé comme une pièce de théâtre.
C'est ça. Alors, c'est Bronson qui raconte sa vie en mode, sur une scène de théâtre.
Il est en face cam, mais même toutes les séquences, tout ça, t'es en pied. T'es filmé vraiment comme champ contre champ et surtout des pieds fixes.
C'est vrai.
T'as un en mouvement, t'es dans une pièce et après t'as un fondu au noir à chaque fois.
Ouais,
c'est une ellipse temporelle et c'est vraiment comme les huit salopards, le film de Tarantino qui filme exactement pareil en 8
clous. Bon, ouais, c'est assez particulier, mais en tout cas, franchement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien.
La mise en scène est théâtrale.
Et la mise en scène, c'est clair qu'elle peut pas convenir.
La photo est cool, je pense qu'il bosse toujours avec le même mec, de toute façon, c'est le même gamme chromatique que sur Drive, t'as vachement de tons jaunes, des tons un peu punchy.
Ouais, puis voilà, encore une fois, ce côté burlesque.
Moi, j'avais une question, pourquoi il se fait appeler Charles Bronson?
Alors, pourquoi il se fait appeler Charles Bronson? Tout simplement, c'est expliqué dans le film, parce qu'il a Paul, donc un détenu qu'il a rencontré en prison, qui va lui faire faire des combats de rue après, une fois qu'il est sorti. Et en gros, il lui dit, il faut un nom d'artiste, et lui, en fait, il est à fond dans le cinéma, etc. Donc il dit, je vais me faire appeler, Charlton Heston. Et Paul lui répond, écoute mon amour, tout le monde s'en fiche de Charlton Heston, ce type est un con, t'es plutôt du genre Charles Bronson. Et là, il va garder ce nom, donc en fait Charles Bronson c'est un vrai acteur, pour ceux qui ne le savent pas.
Ah merci quand même.
Donc il lui a piqué le nom quoi.
Et Charles Bronson c'est un super acteur, qui a joué dans énormément de westerns, voilà, c'est un super acteur.
Mais est-ce qu'il fait aussi bien la bagarre?
Très charismatique, non pas du tout.
Après par rapport à la réalité... Moi, de ce que j'ai compris, il était quand même moins violent avec les gardiens que dans le film.
Oui.
Mais il n'avait pas des pulsions pour taper un gardien.
Après, il y a des passages où il frappe pas que les gardiens aussi. Il y a un moment où il est enfermé dans un asile aussi psychiatrique et pour sortir de là, pour retourner dans sa prison, il décide de s'en prendre à un pédophile. Que tu n'aimes pas l'homme, pourquoi pas, mais là tu dis bon ok t'as bien fait mon gars.
Ouais non, l'asile ça lui correspondait pas.
L'asile ça lui correspondait pas parce qu'il est surtout tu vois une scène où justement la musique sera en rapport à ça, où tu vois le mec qui a tout contrôle de son corps, qui est tout puissant. Il a plus de maîtrise, il arrive à peine à marcher.
Il a self-control mais dans chaque séquence à chaque fois t'as quand même ses points toujours serrés. tu gardes un culte du point, quoi. Tu vois, tout le film, c'est le point, le point, les points des autres, c'est le point à lui.
Il aime la bagarre, il ne vit que pour ça.
Ouais, il a aussi un peu.
Encore un film bah, pour ceux qui n'aiment pas la violence au cinéma ou la violence tout court. Moi, je suis pas fan de violence.
Non, après, c'est un film, du moins, assez.
Mais vu que c'est burlesque, en fait, tu vois, il y a un côté assez clownesque, des fois, c'est assez drôle.
Non, oui, c'est ça.
Des fois, c'est malaisant, ça te fait chier, mais des fois, c'est rigolo.
Ça va, ça dure 1h30, c'est pas.
Moi, pour moi.
Moi, j'avais jamais vu, hein, je l'ai vu là.
Et moi, je trouve que si tu veux le biopic sur ce personnage, le film aurait pu être encore plus violent. Et ils l'ont pas fait. Ils ont détourné un peu sur cette manière, comme tu dis, théâtrale. Et...
Alors, ouais, après, lui, il est danois. Il est pas anglais, Nicolas Wendinger. Donc, peut-être qu'il avait pas du mal à s'approprier le truc.
Vu du personnage, t'aurais pu faire un film encore plus violent. Donc, il est violent, certes, mais ça aurait pu être pire.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, je l'ai dit, il fait un petit séjour en hôpital psychiatrique et ça lui va pas du tout. Il fait tout pour retourner en prison, quitte à étrangler un pédophile.
Pour avoir sa chambre,
parce que pour lui, c'est une chambre.
Bah, en même temps, à l'hôpital, il y a un mec qui fait caca dans ses mains devant lui direct et qui s'étale sur le visage.
Et je sais plus comment il dit ça.
Il n'est pas à sa place.
Non, mais à un moment, il dit « Bon, j'ai bien aimé mon séjour en hôpital psychiatrique, mais le problème avec les cinglés, c'est qu'ils sont cinglés.
Ouais. » Parce qu'après, ils le remettent dans un autre hôpital psy et il arrive quand même à foutre le feu à la moitié de la prison, ça coûtait.
Parce que le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à tuer le mec.
Ils le remettent en liberté.
Vu qu'il n'a pas réussi à le tuer, il n'est pas jugé directement pour aller en prison, il y a un peu, c'est une tentative de merde, donc bon, voilà, bref, regardez ce film, moi j'ai bien aimé, il est drôle.
Excellente perf de Tom Hardy.
Ouais, Tom Hardy,
Mais il s'est fait remarquer, la bande-son est cool, et la musique que je vais vous passer, c'est pas la plus cool de la bande-son, j'avoue, c'est son petit séjour en hôpital psychiatrique. Donc, le groupe, je l'ai pas noté, mais c'est la musique en tout cas, c'est It's a Sin. Pet Shop Boy, voilà.
Tu l'as vu.
Et du coup, de retour dans Ciné Primitif, on vient de s'écouter Pet Shop Boys, It's a Sin, musique dans Bronson.
Exactement.
Ouais. Bon, et on va passer au film suivant.
Qui est Brave Heart.
Ah, bon.
Réalisé par Mel Gibson. Joué par Mel Gibson.
Écrit pas.
Non, il n'a pas écrit. C'est Randall Wallace, rien à voir avec William Wallace, qui l'a écrit le scénario. Donc c'est un film de 95, sorti aux États-Unis en premier, comme d'habitude, qui raconte l'histoire de William Wallace. Donc au XIIIe siècle, William Wallace, un guerrier écossais, mène une rébellion contre le roi d'Angleterre, Édouard Ier, pour libérer l'Écosse de l'oppression anglaise. Inspiré par l'amour et guidé par un fort désir de justice, Wallace devient un symbole de liberté pour son peuple. Durant le film, il va avoir une grosse ascension, on va dire, hein, pour devenir le leader des peuples divisés écossais.
Et, qui reste divisé.
Qui reste divisé, mais c'est ce qui causera sa fin. Mais parlons du film. Donc dans le film, Mel Gibson fait une grosse performance, je crois que c'est sa première réalisation en plus. Casting est correct, mais vraiment les gros points positifs, c'est les décors naturels, les costumes. L'usage de la langue aussi, hein, parce qu'ils ont pris beaucoup d'acteurs écossais, vraiment en VO, parce qu'en français, il n'y a pas grand intérêt.
Non, c'est vrai que l'accent écossais est bien réalisé.
L'accent, et même les Anglais, ils ont vraiment un accent british, comme il faut. Le film est bien rythmé, mais vraiment, la musique fait tout, hein, c'est une carte postale à l'Écosse. Hein.
Ouais.
Je me dis que là, je l'ai revu, du coup, hein, je vais avoir parlé là-dessus. Vous ne l'avez pas revu, mais je l'ai rematé sur Disney. C'est censuré.
C'est-à-dire
c'est quoi? Ah bah, ils censurent tous les inserts en fait de sang.
Okay.
Tous les plans qui durent une seconde où tac, tu vois c'est que genre quand ils coupent la jambe, t'as une insert sur c'est sur la jambe qui saigne vite, mais ça dure une seconde, tu vois, c'est une
Disney,
image.
Vous nous faites chier.
Et tout ça, ils ont coupé, et des éclats de sang aussi qu'ils ont enlevé.
Et ben moi, j'allais te dire que pourtant, les scènes de combat sont très réalistes, elles sont très bien réalisées.
Justement, j'allais revenir après là-dessus, mais pour revenir à la censure, je l'ai pas compris. C'est que des secondes en moins, mais ça tue un peu la violence du film, je trouve. Et ça m'a un peu dérouté. Alors en soi, le film, ça changera pas la qualité de la bataille de Stirling, qui a été vraiment le gros point fort de ce film et qui a ouvert la porte au Seigneur des Anneaux avec la bataille du gouffre même, avec des gros harangs, des batailles rangées et la dimension épique. Et là, on arrive sur une masterclass de Mel Gibson, qui était qu'un acteur jusqu'à là, quoi, quand même.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
D'un point de vue historique, que je vais te laisser parler vu que tu es doctorien en histoire babylonienne écossaise.
Mais non, c'est pour ça qu'il est dans l'émission d'ailleurs, Bobo.
Non, Bobo.
Non, je suis conscient qu'il y a, comme beaucoup de biopics, il s'est librement adapté par un Australien. Et un film sur l'Écosse.
Ouais,
pourquoi pas.
Il y a une grosse immigration écossaise.
Irlandaise, Australie. Écossaise, voilà. Tous les mecs qui voulaient pas en Angleterre, ils ont envoyé là-haut.
Exactement. Non, mais après, le peuple écossais, bon, c'est un peuple, peuple faible qui n'a jamais réussi à obtenir son indépendance vis-à-vis de l'Angleterre et qui reste sous le joug de l'Angleterre à l'heure actuelle. Où, au final, les Écossais ont des terres en Angleterre et les Anglais ont des terres en Écosse. Et en fait, si tu veux, tous les notables sont mélangés, etc. Mais le peuple écossais. Contrairement aux Irlandais, voilà, qu'on réussit véritablement à obtenir leur indépendance.
Ça va, alors il n'est pas occupé par les Anglais.
Au XXe siècle, ne l'oublions pas, les Irlandais ont versé le sang pour obtenir leur indépendance face aux Anglais. Et voilà, je loue plus les Irlandais que les Écossais.
Je suis d'accord, et je pense que sa vision, c'est vraiment pour faire une dimension épique, un peu comme...
Après, le film est fantastique. Hein. Moi, j'avais
J'avais vraiment un bon souvenir de la bande-son, comme tout le monde. Les décors et les costumes aussi, mais le rythme est bien. Et... Franchement, il n'y a pas grand-chose à acheter.
Il y a des petites erreurs quand même, hein, parce que si vous êtes fan d'histoire...
Historiquement, c'est n'importe quoi.
Le kilt a été porté beaucoup plus tard par les Écossais.
Oui, non, mais ça, c'est...
Moi, c'est un détail.
Mais la bataille de Stirling, William Wallace, il ne l'a pas fait. C'est quand même le point fort du film.
Est-ce qu'ils ont vraiment montré leur cul à l'ennemi?
Oh, certainement, ça. À l'époque, des biopics historiques comme ça, il n'y en avait pas. Hein. Il n'a pas eu un... Du moins, il a quand même eu un gros budget. Il y a eu 65 millions pour l'époque, c'était assez énorme. Mais c'était un parti pris. Est-ce que ça va plaire aux gens C'est sorti, ça a eu 10 Oscars... pas 10 Oscars, 10 nominations, ça a eu 5 Oscars, je crois. Meilleur film, meilleur réalisateur, photographie, montage sonore et maquillage. Bon, le montage un peu moins, je sais pas.
Puis après, surtout, voilà,
concurrence, ça, mais sinon,
c'est la première de Mel Gibson, comme tu l'as dit. Et après, il a fait ouais, il a fait d'autres choses.
Ouais, il a fait d'autres biopics, hein. Pas sûr du Christ que j'hésite à prendre, mais bon. Et sinon, un film à voir. De toute façon, ça reste des classiques du cinéma. Hein.
C'est vrai.
Là, pour puis Sophie Marceau en princesse, quand même.
On a oui, parlé de Sophie Marceau en c'est un rôle un peu négligé, je trouve.
Oui, oui, oui. Bah après, on voit Mel Gibson qui parle en français, qui communique en français.
Clairement, faut le mettre en VO. Hein, ouais, ça, voilà. Pas photo,
ça, c'est sympa, ça, c'est sympa.
Non, c'est sympa. Non, il y a plein de trucs sympas. Mais franchement, le décor, son et maquillage, les acteurs sont pas mauvais. Ça passe, ça a regardé sans problème. Voilà.
Un bon film de bataille.
Un bon film de bataille qui a inspiré beaucoup d'autres grands films qui sont sortis après.
Ouais, tout à fait. Hein.
Avec des discours mémorables de William Wallace.
Moi, je retiens surtout Liberté.
Voilà. Non, voilà. Donc, on va s'écouter la bande son de Braveheart
de William Wallace,
qui est composé par James Horner. Je pense que c'est sa meilleure BO. Après, voilà.
Et du coup, le son que t'as choisi, c'est For the Love of a Princess.
Ouais.
Et c'est parti.
c'était James Horner et la BO de Braveheart.
Voilà, un petit plaisir Braveheart, un film à voir. Et on passe au film suivant, toujours sur le thème biopic.
Et pas sur Disney+.
Non. Et... Alors Nono, tu vas nous présenter.
Oh là là, alors là, franchement, je pensais qu'on allait avoir que des films en annonçant le thème biopic sur des célébrités,
prison,
etc.
Prison, tu t'es trompé, pas biopic, prison.
Il y a un peu de prison aussi.
Ah, il y a beaucoup de prison.
Le film que je vais vous présenter, c'est Walk the Line, sorti en 2005, réalisé par James Mangold, qui a réalisé 3h10 pour Yuma, qui est pas fou, qui a réalisé aussi Wolverine, le combat de l'immortel, qui est pas bien.
Qui est pas fou.
Logan, qui est bien. Et Le Mans 66, que je n'ai pas vu, mais qui aurait pu coller au thème moteur.
Ah, qui était bon, il est bon, il est bon.
Je l'ai pas
avec
encore
un
vu,
Matthew McConaughey dedans.
Ah, ah aussi.
Ah, oui.
Et on le verra tout à l'heure.
Gabon.
Et au casting, on a...
Qui aurait pu être un biopic, d'ailleurs.
Oui. Joaquin Phoenix, qui est pas toujours bon, mais qui est très bon dans ce film.
Ouais, ça dépend comment il dirige. Par
il,
des acteurs.
Il peut vite rentrer dans le surjeu, et là, franchement, le rôle de Johnny Cash, ça lui colle très bien.
Ouais, il est très dynamique,
il est
très, très
bon. À la perfection. Mm. Reese Witherspoon.
Witherspoon.
Et Robert Patrick, le c'est célèbre méchant dans Terminator 2.
Ouais, le T-1000 de Terminator
le
2.
Le T-1000, le fameux T-1000.
Le père de Joaquin Phoenix. De,
voilà, c'est
Johnny
ça.
Cash,
c'est ouais. Ça. Ouais, qui a pas l'air très sympathique.
Et je reviens sur la magnifique, quand même, Reese Witherspoon.
Ouais. Et vous savez que. Non, mais. Bah, rigolez jolie. Pas. Vous savez que ces acteurs ont été choisis par. Avant le film,
ouais.
Avant la réalisation du film. Par justement Johnny Cash et June Carter pour interpréter leur rôle. Ils ont respectivement choisi ces acteurs-là. Donc ils n'ont pas pu voir le résultat.
Je crois que sa fille aussi, Suzanne, était
impliquée
dans
avant.
Le film.
Là,
ils sont...
Mais c'était.
Je suis pas sûr, c'est pas 2006. Ils sont décédés en 2006.
Ils sont...
je crois.
Non, je vais te dire exactement, puisque j'allais en parler après, mais ils sont décédés le 12 septembre 2003 pour Johnny Cash de diabète. Et pas longtemps après, le 15 mai, June Carter est morte. Jusqu'à
mais
la fin,
les deux ne pouvaient pas se séparer.
Voilà.
C'est pour ça que leur mort est très très proche. Ces deux êtres.
Ah oui, bien sûr.
Voilà.
Fusionnel.
Mais pour en revenir au film, d'ailleurs, dans le film, ils sont pas si fusionnels.
S'en
que
fiche
ça.
Du film, parle de.
Non. On parle du film parce qu'on est là pour parler cinéma. Donc ça retrace la vie de Johnny Cash. Qui on le suit de. On voit un peu son enfance. Après, on le suit dans ses débuts musicaux. On le voit au début du film, c'est à la.
Dans l'armée de l'air.
La prison de Folsom, célèbre concert qu'il a fait devant 2000 prisonniers. Et voilà, après, bon, on va pas faire un synopsis sur la vie de Johnny Cash. Faut voir le film. Faut s'intéresser à Johnny Cash. Faut aimer Johnny Cash aussi pour voir le film. Hein,
je pense que c'est un des meilleurs biopics musicaux que j'ai vu. En
ouais,
tout cas,
c'est vrai. Et moi, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai choisi.
Ouais.
Et en plus, il faut savoir que les deux acteurs, quand même, chantent vraiment.
Ah oui, bien sûr. Heureusement, le film.
Et le film est très bien réalisé, l'interprétation est magique. Mmh. En plus, Johnny Cash, je trouve, dans le film, tu vois, c'est pas le mec que t'as envie de suivre. Des fois, il est même... Tu te dis que c'est un connard. C'est un gros connard avec June Carter.
Après, c'est un beau film américain à la base.
Non, je suis pas d'accord.
Non, des fois, il est forceur. T'as pas envie de l'aimer, ce mec-là,
non,
dans
le
film.
C'est juste, c'est un mec, enfin, voilà, qui a une vie, qui a vécu des choses...
Comme tout le monde.
Voilà, comme tout le monde, étant jeune, etc. Mais à un moment donné, comme Elvis, il tombe dans cette drogue, dans la drogue, là.
Oui, c'est vrai qu'il prend beaucoup de drogue.
Et en fait, il est éclaté. Donc, à un moment donné, quand t'es éclaté comme ça, du matin au soir, bah, t'as toutes les mauvaises choses qui ressurgissent et l'autre, il sait plus où il en est.
Oui, mais tu vois, ça aurait pu être j'imagine, dans beaucoup de films où tu vas parler d'un artiste, ça va être un peu romancé, où il va y avoir une belle histoire d'amour et tout. Là, l'histoire d'amour, je la trouve un peu particulière. Enfin, tu vois,
elle est magnifique, cette histoire d'amour.
Ouais, ouais, c'est un peu son infirmière, quoi.
Non, c'est son ami. Après, voilà, ça va au-delà.
Après, il reste en lien aussi avec son ancienne femme,
ouais,
avec qui il a fait les enfants.
Voilà, bon.
Mais il avait déjà des enfants avant d'être connu, au fait. Il était. Et pour, du coup, le synopsis, il me dit que je le ferais pas, mais bon, en gros, Johnny Cash faisait des chansons chrétiennes que tout le monde faisait, et quand il s'est rendu au studio de Philips, il lui a dit: mais tu me sers la même guimauve que tout le monde, au fait, tout le monde chante ça, mais les gens, ils veulent autre chose, ils veulent quelque chose qui sorte du cœur, et c'est là où il s'est mis à jouer du Johnny Cash. Il est venu en noir, et d'ailleurs, il y a une réplique dans le film où justement, il s'habille en noir pour aller jouer dans le studio sa première musique, et sa femme Viviane, donc sa femme de l'époque, lui dit: on croirait que tu te rends à un enterrement, et il lui répond: bah, peut-être que c'est le cas. Et je trouve que ce film
retrace très bien ça. Tout au long de sa carrière, elle n'a pas confiance en lui.
Ouais. Voilà, oui,
tout au long
vrai.
De sa carrière. Pourquoi tu joues comme ça? Bah parce que je peux pas jouer plus vite. Pourquoi tu fais ci? Bah parce que... Voilà. En fait, il a toujours une petite fichue, mais il n'a pas véritablement confiance en lui. Mais
et d'ailleurs, dans le film, à un moment, June lui dit... arrête de penser que tout ce que tu fais est dû au hasard.
Ouais, puis même les autres artistes qu'il rencontre, c'est assez bien foutu ouais. aussi.
Non, mais ce film est vraiment bien. Moi, je trouve. Enfin, je sais pas, moi, je prends plaisir à le regarder.
Moi, j'ai pris plaisir à le regarder.
Je l'ai vu plein de fois et c'est vrai que j'aime beaucoup.
Et en plus, surtout, la bande-son, forcément, est signée Johnny Cash. Tout simplement, en fait, il n'y a pas de surprise.
Et je reviendrai juste sur. Petite parenthèse quand même sur son album qu'il fait à Folsom Prison. Et celui-là, il est quand même extraordinaire et unique. Je dirais que c'est le premier à avoir enregistré un disque
en prison.
Ouais.
Devant et des prisonniers. Il était mal vu pour ça.
Non, mais bien sûr, il était déjà mal vu de
et
base.
Et pour en revenir justement à June Carter, qui était elle bien vue plutôt à l'époque, et justement à fréquenter Johnny Cash, et avec son divorce aussi à l'époque, elle était vue comme la mauvaise chrétienne.
Je raconte pas tout le film, mais cet album il est génial. Écoutez-le. Ouais, l'album de Folsom Prison, et il y a un public de fou, et l'audio est génial.
Et par
vraiment,
contre,
écoutez-le.
Et par contre, c'est pas du tout la musique que j'ai choisie. Moi, j'ai choisi I Walk the Line. Et cette chanson, il l'a écrite pour Vivian, donc sa première femme, et pas pour June Carter. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il l'a écrite parce que forcément, il faisait beaucoup de tournées, il dérivait beaucoup, il faisait n'importe quoi. Et c'était un message pour lui dire que il marcherait droit, il la suivrait, et il serait fidèle. Quel menteur, ce Johnny Cash. Écouter dans Ciné Primitif I Walk the Line de Johnny Cash. Et on passe au dernier film, déjà.
Oui, le Dallas Buyers Club, sorti en 2014 avec quand même 3 Oscars, hein, dont le premier rôle, le second rôle et le maquillage, film de Jean-Marc Vallée. Avec à la distribution, nous avons Matthew McConaughey, qui a joué dans Le Règne du Feu, la série True Detective, je vous conseille, la première saison
est bien.
Avec Woody Harrelson, elle est extraordinaire. Interstellar, hein, quand même, je pense que c'est le meilleur film.
Voilà.
Ouais, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu.
Ah ouais, à ce point-là
Je suis un fan inconsidérable d'Interstellar.
Ouais, moi, je suis d'accord, il est super bien.
C'est le meilleur film, enfin pour moi, c'est mon film préféré, c'est le meilleur film de tous les temps. On a Jennifer Garner, qui joue quand même Elektra, hein, dans le film Elektra.
Tu l'as vu Quelle daube.
C'est pas le problème, je te parle pas du film, je te parle de Jennifer Garner.
Non, mais...
Elle a joué dans Pearl Harbor, de la
daube.
Série Alias.
Daube aussi.
Bref, avec aussi quand même Jared Leto, qui a joué dans Fight Club.
Que j'avais pas reconnu dans le film.
Moi j'avais pas reconnu, et par contre je trouve que c'est
un d'œil à mon ami Nono.
C'est
Fight Club, ouais.
Face Angel, Angel Face, celui qui se fait éclater et défigurer.
Carrément.
Requiem for a Dream, hein. Panic Room, il est très bon dans ce film avec Forest Whitaker, Lord of War avec Nicolas Cage et Mr. Nobody et Warhol. Okay. Voilà. Jared Leto, très
je pense que c'est là où il joue le mieux. Moi.
Ouais, ouais, mais clairement, parce que Jared Leto, je suis vraiment pas fan en tant qu'acteur. En fait, il me saoule. Je sais pas pourquoi il me saoule ses limites physiques, mais là, je l'ai trouvé très bon dans ce film.
Très très bon acteur. Et c'est un mec qui a plusieurs cordes à son arc, on en reparlera à la fin. Pour le synopsis, donc on est en 86 à Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodruff, à 35 ans, débote un Stenson, c'est un pistolet, je précise, c'est un cow-boy, un vrai. Sa vie, sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand il est diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l'impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble d'autres malades. Comme Rayon Sunshine,
Donc,
en quête de guérison. Ouais, exactement, le Dallas Buyers Club est né. Mais son succès gêne, Ron doit s'engager dans une bataille contre les laboratoires et les autorités fédérales. C'est son combat pour une nouvelle cause et pour sa propre vie. Ce film raconte donc l'histoire vraie de Ron Woodruff. Par son action bien qu'inégale, cet homme a contribué à faire avancer donc la cause des malades atteints par le sida en prouvant l'inefficacité du système d'aide proposé à l'époque par les pouvoirs publics. Ah, c'est une belle histoire quand même.
Ouais, franchement, j'ai bien aimé ce film. Excuse-moi, je te coupe.
Fais-toi plaisir.
Parce qu'en fait, le mec est détestable au début. Pour moi, c'est vraiment le cliché américain. C'est du
rodéo.
C'est un cow-boy misogyne, homophobe, raciste, tout ce que tu veux.
Au final, à partir du moment où il est malade, déjà, t'as un peu de pitié, même si tu l'aimes pas. Tu vois, tu te dis, non, j'ai envie qu'il s'en sorte. Mais à partir de là, il va vivre aussi des moments forts, comme l'homophobie, parce que tous les gens associés à cette époque-là.
Ah, sida pédé.
À l'homosexualité. Et du coup, en fait, lui, c'est la première fois où il prend conscience de ça et il va se rebeller aussi un peu contre ça. C'est ça. Et
effectivement, son bras droit, ça devient Sunshine.
Ouais.
Sunshine, voilà.
Comme quoi, en deux heures de film, on peut faire une histoire avec des personnages construits. Hein. C'est fou.
Ouais, vraiment. Je suis fan et c'est une belle histoire d'un mec qui a effectivement, qui au départ qui est détestable, mais qui devient une très belle personne.
Ouais. Quelle performance de l'acteur.
Ouais, mais c'est Matthew McConaughey.
Ah, par contre, il fait mal au cœur. Par contre, il est tout casse. Alors,
ils ont perdu, tu vois, les deux 25. Acteurs ont perdu entre. Donc, le premier, Matthew McConaughey, a perdu 22 kilos et Jared Leto en a perdu 25. Enfin, aujourd'hui, moi, tu me dis de perdre 25 kilos.
Tu fais comme j'aime.
Quand le projet Dallas Buyers Club fut lancé dans les années 90, Dennis Hopper avait été envisagé comme réalisateur et Woody Harrelson comme premier rôle. Manque de soutien financier, cette version n'a pas vu le jour. Le scénariste à l'origine du film donc, a passé plusieurs jours en sa compagnie, a ainsi pu enregistrer des dizaines d'heures d'entretien. Et un mois plus tard, le petit Woodruff est décédé. Voilà, après il y a un truc qui est super sur ce film, c'est que le film il a nécessité que 25 jours de tournage.
Oui, alors après ça se passe sur une courte, du moins première moitié du film passe sur les censés être les 30 premiers jours, donc tu restes dans les mêmes décors, tu restes sur la même mois, tu restes, t'as pas d'ellipse temporelle assez.
Puis c'est vrai que je trouve que ça fait assez cinéma classique au niveau de la réalisation. Je sais pas, je dis peut-être une connerie, mais c'est un peu genre en mode Clint Eastwood ou quoi. Enfin, tu sais, le vieux cinéma américain.
Bah, éclairage naturel. Voilà.
Mais,
et du coup, c'est un gagne-temps si tu veux pour le montage et les décors. Voilà. Après, y a plusieurs répliques qui sont sympas, qui sont assez représentatives du film, où il dit je ne vends pas de la drogue, je vends des adhésions au club. Donc il arrive à contourner la loi comme ça. Et monsieur Woodruff, on vous a testé positif pour le VIH, nous estimons qu'il vous reste 30 jours à vivre. Et là il répond, ça j'adore, il n'y a rien sur cette terre qui puisse tuer Ron Woodruff en 30 jours.
Il avait raison.
Il va vivre encore plusieurs années.
Ouais.
J'adore ce film et j'adore Matthew McConaughey. Ouais. Donc moi je vous encourage à le voir.
Non, faut aller voir. Même pour les cons, homophobes et tout, ouais, les films, c'est un film à voir. Je connaissais pas d'ailleurs Club. Du moins je connaissais pas les.
Ouais, je savais pas non plus que ça existait.
Les clubs des médicaments aux États-Unis, je sais qu'il y a une légalité qui est un peu différente par rapport au pays qui l'entoure, Mexique, est-ce que
ça
Canada.
Peut, ouais. Ça peut paraître un peu spécial hein, quand même au premier abord. Quand tu vois le film, tu sais même pas déjà au départ, il fait ça.
En Europe, il n'y a pas ce genre de choses.
Il fait déjà. Mais ça marche. À la base, il fait déjà pour survivre lui-même.
Ouais, ouais, pour faire
après,
l'argent.
Il voit que ça fonctionne sur lui, et puis il se dit, je vais en faire du pognon.
Là, on arrive plus que sur une fin d'émission. Un petit peu de montage.
Ouais.
Et du coup, on va annoncer le prochain thème grâce à notre roulette.
La roulette, tambour. La roulette.
Top,
la
c'est parti. Roulette. Monstre.
Ah, monstre.
Voilà.
Parfait. Ça me plaît, ça.
On a notre prochain
oui,
thème.
Oui, alors pour...
On va pouvoir se quitter et puis on se fait des bisous avant que tu nous annonces la musique.
La musique que j'ai sélectionnée pour ce film, c'est 30 Seconds to Mars, City of Angel. En version acoustique, c'est le groupe de Jared Leto, donc qui avait d'ailleurs arrêté sa carrière d'acteur quelque temps pour se consacrer au groupe.
Et on t'embrasse, Jared. Et bisous et à tout le monde.
À la prochaine pour
bisous,
les
bisous.
Monstres.
Pour les monstres, on se retrouve. Bisous.
Against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. I'm just a ghost, running scared. Here our dreams are made the one. Lost in the city of angels, down in the comfort of strangers, I found myself in the fire-burned hills and the land of a billion lights. Bought my fate straight from hell. Second sight has paid off well for a mother, a brother, and me.